Merci.
Et nous retrouvons 24 heures en France avec Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Juliette. Bonsoir Claudie, bonsoir à tous.
On est claqués.
On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. On fait le tour de l'actualité française. À la une de ce journal, le procès du RN et les réquisitions contre Marine Le Pen. L'accusation demande 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables et 5 ans d'inéligibilité. On fera le point dès le début de ce journal. Dans l'actualité française également, des milliers de personnes dans la rue à Paris contre un gala de soutien à Israël controversé. À la veille également du match de foot France-Israël au Stade de France où un dispositif sécuritaire exceptionnel sera déployé. La ministre de l'Environnement ne se rendra pas à Bakou pour la COP29. De nouvelles tensions sont apparues aujourd'hui entre la France et l'Azerbaïdjan après des propos du président azerbaïdjanais. On en parle dans ce journal. Et puis, une alerte sanitaire. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge interpelle sur la sédentarité des plus jeunes.
RFI.
Prison ferme aménageable, mais aussi inéligibilité requise contre la chef de l'extrême droite Marine Le Pen. Le procès du Rassemblement national laissait craindre le pire pour le parti et son ex-présidente. Les réquisitions du parquet dans l'affaire des détournements de fonds européens par le RN sont en effet lourdes ce mercredi, et en particulier pour la triple candidate à la présidentielle. 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Nous sommes ici dans une enceinte judiciaire et le droit s'applique à tous, a insisté le procureur au tribunal. On y revient avec Aurélien de Vernois.
Si les juges suivent les réquisitions, Marine Le Pen pourrait donc être condamnée à manquer la prochaine élection présidentielle. La peine d'inéligibilité serait en effet valable, même si la chef de file du RN fait appel. Le procureur l'a d'ailleurs spécifiquement précisé lors de son réquisitoire. Un scénario catastrophe pour le Rassemblement national, une violence a tempêté Marine Le Pen à la sortie de la salle d'audience. La volonté du parquet est de priver les Français de la capacité à voter pour ce qu'ils souhaitent, a-t-elle ajouté. Ce mobile politique, c'est ce que martèle le RN depuis le début du procès, ce qui n'a sans doute pas attendri l'accusation. Aussitôt les réquisitions révélées, c'est tout l'écosystème Le Pen qui s'est activé, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je soutiens Marine ». Jordan Bardella est lui aussi rapidement monté au créneau. Le président du RN a fustigé un esprit de vengeance et une atteinte à la démocratie. Reste qu'il pourrait bien être le grand gagnant de ce procès, représentant l'alternative la plus évidente pour le RN en cas d'empêchement de Marine Le Pen. L'avocate de formation qui doit se mordre les doigts d'avoir négligé le risque de l'exécution provisoire de sa peine en raison d'une loi entrée en vigueur à la toute fin des faits qui lui sont reprochés.
Aurélien de Vernois. Et Marine Le Pen dénonce ce soir une volonté de l'exclure de la vie politique. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est aussi exprimé. Il parle notamment, je cite, d'un acharnement à l'égard de la députée d'extrême droite. À Paris, ce soir, plusieurs milliers de personnes dans la rue pour protester contre le gala annuel de l'association Israel is Forever, une association proche du parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette soirée caritative en soutien à Israël a été maintenue alors que plusieurs associations et partis politiques de gauche avaient appelé à l'annuler dans un contexte marqué par la guerre à Gaza et au Liban. Plus tôt dans la soirée, le ministère de la Santé du Hamas a d'ailleurs annoncé un nouveau bilan dans la bande de Gaza. Plus de 43 700 morts depuis octobre 2023, dont la plupart sont des civils. Hasard du calendrier français, le gala de l'association Israel is Forever se déroule aussi 24 heures avant le match de football France-Israël, lui aussi maintenu. Un geste incompréhensible de la part de l'État français, selon Leïla, manifestante en colère, rencontrée par notre reporter Amélie Beaucourt dans les rues de Paris ce soir.
Quand on est contre, on n'accepte pas de s'asseoir à la table des injustes. Quand on est contre, on ne valide pas les thèses de ceux du côté de la barbarie. Quand on est contre, on n'accepte pas la présence, que ce soit pendant les Jeux Olympiques ou concernant le gala ou le match, on n'accepte pas que ces gens-là soient présents. Et comme on a appliqué des sanctions à la Russie, et comme on a banni la Russie et la Biélorussie de toutes nos manifestations sportives, on devrait appliquer la même chose à Israël. Il n'y a pas de poids de mesure. Ça ne doit pas exister. Pour la simple raison, c'est que quand on veut incarner la nation de l'humanisme et de l'égalité, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se permettre, ne serait-ce que par rapport au peuple français.
Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Je vous le disais précédemment, le match de foot France-Israël a été maintenu ce jeudi soir au Stade de France, près de Paris. Un dispositif de sécurité impressionnant est déployé après les violences d'Amsterdam il y a une semaine où des supporters du Maccabi Tel Aviv ont été pris pour cible. La rencontre est considérée comme à haut risque par les autorités françaises. Marie Cazadebé.
Le préfet de police de Paris promet un dispositif très inhabituel. 4000 membres des forces de l'ordre, 2500 policiers et gendarmes autour du stade, 1500 dans les rues de Paris et dans les transports, soit le double d'un match international. Et ce, alors que moins d'un tiers des tribunes du Stade de France seront remplies. La Fédération française de football table sur 20 000 places occupées sur les 80 000 du site. Ce sera la plus faible affluence pour les Bleus dans ce stade mythique. Il faut dire que le contexte sécuritaire, les violences d'Amsterdam, mais aussi l'ouverture très tardive de la billetterie, la tenue de la rencontre a longtemps été incertaine. Tout cela a refroidi les supporters français. Et pour ce qui est des Israéliens, les autorités de l'État hébreu les ont appelés à ne pas se rendre en France pour des questions de sécurité. Seule une centaine de personnes devraient donc faire le déplacement et rejoindre en tribune une zone de parcage dédiée aux visiteurs. Dans l'ensemble du stade, les premiers rangs, les plus proches des joueurs, resteront de toute façon vides afin d'éviter toute intrusion sur la pelouse.
Marie Cazadebé. RFI, il est 2h06 à Bakou. Ce mercredi, c'était le troisième jour de discussion sur le climat à la COP29 en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, plus que jamais, dans le viseur français. De nouvelles tensions sont apparues aujourd'hui entre Paris et Bakou. L'Azerbaïdjan critique depuis un certain temps le soutien français à son ennemi historique arménien. Et le pays a précédemment été accusé par Paris d'ingérence pendant les récentes émeutes en Nouvelle-Calédonie. Des allégations rejetées par Bakou. Ce mercredi, dans un discours à la COP29, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a notamment réitéré ses attaques contre Paris. Il a dénoncé l'histoire coloniale de la France et a parlé de crimes du régime du président Macron dans ses territoires d'outre-mer. Dans la foulée, la ministre française de la transition écologique a renoncé à se rendre au sommet. Agnès Pannier-Runacher dénonce des attaques inacceptables du président azerbaïdjanais contre la France et l'Europe. Margot Ratézic.
Un ministre français de l'écologie absent d'une COP sur le climat, une première depuis l'accord de Paris en 2015. C'est pourtant le choix assumé par Agnès Pannier-Runacher ce mercredi devant le Sénat, après les propos du président azerbaïdjanais.
Les propos tenus par le président Aliyev entre la France et l'Europe sont inacceptables. Je ne me rendrai pas à Bakou la semaine prochaine.
Des propos qui visent la France et son histoire coloniale. Ilham Aliyev a même directement accusé le régime d'Emmanuel Macron coupable, selon lui, de crimes dans les Outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie. Le dirigeant du pays hôte de la COP a aussi étrillé plusieurs institutions européennes, je cite, « symbole de la corruption politique ». Mais la ministre française l'affirme, son boycott n'empêchera pas la délégation française de remplir sa mission sur place. Agnès Pannier-Runacher au micro de Public Sénat.
Et les équipes françaises seront à la COP, elles seront dans toutes les salles de négociation. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés pour porter des positions très ambitieuses en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Il y a encore une semaine, Agnès Pannier-Runacher avait assuré que la France ne cédera pas à la politique de la chaise vide.
Margot Ratézic. À quelques jours du sommet du G20 à Rio, le Premier ministre français est en déplacement à Bruxelles pour tenter de défendre son budget, mais aussi pour redire l'opposition de la France à l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Accord qui pourrait enflammer de nouveau les campagnes françaises. L'Union européenne semble déterminée à le signer d'ici la fin de l'année, mais les agriculteurs français dénoncent une concurrence déloyale si cet accord venait à être signé. Pour la viande bovine, c'est 99 000 tonnes de bœuf qui entreraient en France avec des normes bien moins strictes que celles produites au sein de l'UE. Patrick Benesi est président de la Fédération nationale bovine et vice-président d'Interbef, le lobby de la viande.
Peut-être le pire pour nous, c'est la mise en confrontation d'un modèle respectueux de l'environnement vis-à-vis d'un type de production qui ne respecte absolument aucune règle qui est aujourd'hui obligatoire dans l'Union européenne. Par exemple, aujourd'hui, les activateurs de croissance, c'est pas les hormones, c'est quelque chose en plus des hormones qui sont autorisées. Les activateurs de croissance et des antibiotiques en permanence dans la ration. C'est également les farines de viande, interdites également chez nous. Et donc, dans ce sens-là, on ne peut même pas imaginer que cet accord puisse être signé. On a une Commission européenne qui veut nous mettre des normes supplémentaires à nous, de bien-être ou autre, alors que ça n'existe même pas en Amérique du Sud. Ça engage également l'ensemble de notre filière. C'est-à-dire il y a quand même 500 000 emplois et qui dépendent très directement de la viande bovine dans les abattoirs, chez les découpeurs, chez les distributeurs. C'est 500 000 emplois, donc ça va très très loin.
Patrick Benesi, président de la Fédération nationale bovine, des propos recueillis par Anne Verdaguer. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge vient de publier un rapport alarmant. Les jeunes Français sont de plus en plus sédentaires. Cette sédentarité s'est même accentuée depuis la crise sanitaire du Covid-19 et les confinements. Les explications d'Olivier Sherman.
L'univers et le terrain de jeu des enfants français est désormais leur maison ou leur chambre. Des enfants qui grandissent entre quatre murs, en quelque sorte, loin de la nature, loin de l'extérieur. C'est une génération d'enfants de l'intérieur, plus habiles pour surfer sur une tablette ou un téléphone que de jouer dehors. Dans son rapport très dense, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge s'inquiète de cette situation. La montée du sentiment d'insécurité apparaît comme l'une des causes de la sédentarité des enfants, comme l'explique la présidente de cette instance, Sylviane Giampino.
Il y a un rapport anxieux à l'extérieur des familles qui craignent plusieurs dangers. Le premier, c'est la mauvaise rencontre, les mauvaises fréquentations. Le second, c'est une atteinte corporelle à leurs enfants, hein, l'agression. Pour les parents, la maison est devenue une sorte de garantie de la sécurité de leurs enfants.
Le rapport préconise enfin un meilleur partage de l'espace public, multiplier les voies cyclables, piétonniser davantage les rues, notamment aux abords des écoles, et développer les activités artistiques et culturelle à l'extérieur.
Olivier Sherman, on en parlait précédemment, mais dans un cadre strictement sportif, la France doit donc battre Israël à domicile demain. Objectif, se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Les Anglais coincés au deuxième étage de la compétition sont eux obligés de gagner en Grèce s'ils veulent gagner leur chance de remonter directement. Pour l'heure, les hommes de Didier Deschamps, sans leur capitaine vedette Kylian Mbappé, se placent à un point derrière l'Italie, quasi assurée d'être qualifiée. L'attaquant du Real Madrid n'est pas sélectionné pour la deuxième fois d'affilée. 24 heures en France continue, restez avec nous.
24 heures en France. Juliette Pietraszewski.
À Nice, dans la cité des Moulins, se trouve le plus gros point de deal des Alpes-Maritimes. Son nom, La Laverie, c'est aussi le nom d'un livre publié ce jeudi par Robert Laffont et dans lequel la journaliste Siam Spencer raconte le quotidien dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Un quartier dans lequel elle a vécu pendant 7 mois, où l'entraide est importante, mais les bruits des guetteurs sont incessants. Au micro de Frédéric Genot, Siam Spencer nous raconte les raisons de cette violence et de ces balles perdues qui se multiplient.
Il y a des enjeux financiers très forts. Le point de deal, là, la laverie, c'est entre 15 000 et 20 000 euros de recettes par jour, donc ce qui est quand même énorme. On est sur des ados la plupart du temps et qui en plus de ça sont consommateurs donc de cannabis. Alors c'est pas le cas partout, mais il y a de l'alcool et en fait la consommation des deux fait qu'on on se retrouve avec des jeunes camés ou des mineurs non accompagnés pareil qui sont dans des états seconds et qui peuvent avoir aussi des switchs, des coups de folie et dans un climat de stress ambiant qui est assez fort parce qu'il y a justement des tensions entre clans rivaux et c'est là justement qu'on peut se retrouver avec des armes et avec un clan qui va débarquer tirer sur tout le monde ou des coups de couteau et c'est là que ça devient vraiment dangereux.
Vous racontez aussi comment au début vous mettez votre matelas par terre pour échapper à une balle perdue.
C'est ça, j'habitais au rez-de-chaussée et la première fois que je me réveille au moulin, il y a eu des tirs quasiment en face de chez moi, quoi, des tirs quasi sous la fenêtre. Et donc rapidement, moi, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être à hauteur de tir, on sait jamais s'il y a une balle qui traverse le mur. Je me rapprochais du sol.
Les rapports avec la police sont-ils ceux que vous imaginiez ?
Non, c'est moins tendu que ce que je pensais. Je suis arrivée avec un petit peu des a priori. Je me suis dit, bon, ce serait pas étonnant qu'il y ait une bavure ou des choses comme ça. Alors, ça peut être tendu parce que les habitants, notamment les hommes, parlent beaucoup de contrôle trop fréquent et qui, eux, les mettent mal à l'aise, les agacent. Mais c'est moins tendu dans le sens où il y a des moments de discussion, en fait, vraiment entre les policiers, les jeunes d'une part, mais surtout les familles. Tout le monde cohabite, tout le monde sait que les policiers sont là, les dealers sont là, les habitants sont là. Et c'est un petit monde qui cohabite.
Mais en même temps, les policiers sont très pessimistes sur l'évolution de la situation et du trafic de drogue qui arrive dans toutes les villes.
Oui, complètement. Bon, on m'a plusieurs fois parlé d'une vague en fait qu'on peut pas arrêter et que les choses s'empirent, qu'ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire. Et souvent, quand ils arrivent, c'est déjà qu'il est trop tard et que ils se sentent finalement assez impuissants par rapport à ce trafic-là. Ils font ce qu'ils peuvent et leur mission, c'est d'être là pour 3-4 heures tous les jours et se dire bah pendant ces 3-4 heures-là, il y a moins de risques qu'il y ait une balle perdue, il y a moins de risques qu'il y ait un jeune qui se fasse planter avec un poignard. Et ça peut être sur ces 3 heures-là un moment de répit pour les habitants qui, eux, pour le coup, ont rien demandé et au Moulin sont très en colère et le disent à face découverte, ce qui n'est pas le cas de tous les quartiers.
Entretien avec la journaliste Siam Spencer. Son livre La Laverie sera publié ce jeudi aux éditions Robert Laffont. Direction les salles obscures à présent, c'est son 51e long métrage. Claude Lelouch vient de sortir son film, finalement, au cinéma, aujourd'hui en France. À 87 ans, le réalisateur surprend encore. On le connaît notamment pour Un homme et une femme. L'aventure, c'est l'aventure, ou encore Itinéraire d'un enfant gâté. Monstre sacré du cinéma français, Claude Lelouch a toujours les yeux qui pétillent lorsqu'il parle du 7e art et de ses œuvres. Je vous propose de l'écouter. C'est un entretien signé Elisabeth Le Quéré. Claude Lelouch, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Finalement, c'est l'histoire d'un homme qui se fait la belle. C'est un avocat parisien renommé. Il quitte femme et enfant pour partir sur les routes de France. Il s'appelle Lino et il est joué par Cadmerade.
Oui, oui, c'est un aventurier d'aujourd'hui. C'est un homme qui a envie de retrouver sa liberté. Il a envie de s'offrir une récréation avec lui-même. Il a envie de se retrouver lui-même. Et il part au hasard. Il va rencontrer des personnes merveilleuses, des enfoirés, voilà. Et comme les personnes merveilleuses sont plus fortes que les enfoirés, je pense qu'il va retrouver la lumière, voilà, qu'il avait perdue.
Il raconte des bobards, en fait. Il s'invente des fausses vies.
Oui, enfin, c'est un grand avocat. Il a fêté son 100e acquittement. Et quand il rencontre des gens et que les gens lui demandent qui il est, il se met dans la peau des personnages qu'il a défendus. Et ça lui permet, comme ça, de mesurer la tolérance des gens qu'il rencontre.
Pourquoi vous aimez tant filmer des menteurs ?
Ben parce qu'ils nous font rêver. Ils nous font rêver, puis on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Et on a besoin, dans l'époque qu'on vit, de rêver un peu plus.
Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance, finalement.
Claude Lelouch, Cadmerade, c'est la première fois que vous tournez avec lui. Autour de lui, il y a plutôt les suspects habituels, hein, votre famille de cinéma. Elsa Zilberstein, Sandrine Bonnaire, Michel Bougenat, Françoise Fabian. Des acteurs fidèles avec qui vous avez déjà tourné.
J'aime être entouré par les gens qui ont du talent. Voilà, donc les gens qui ont du talent, je suis content de les revoir. Comme on est content de revoir des gens qu'on aime, voilà.
Claude Lelouch, finalement, c'est votre 51e film. Quand on regarde dans le rétroviseur, et je sais qu'une rétrospective de votre œuvre va avoir lieu bientôt à la Cinémathèque française, comment on se sent ?
Écoutez, on se sent comme un enfant gâté. Moi, j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où ils riaient, maintenant ils ricanent. Voilà. Donc j'apprécie chaque seconde qui passe.
Et quand on a une œuvre, une filmographie aussi impressionnante, comment on fait pour trouver encore l'inspiration ?
Ben, je travaille avec un immense scénariste qui s'appelle La Vie.
Est-ce que vous pouvez imaginer une vie sans cinéma ?
Je pense que j'aurais aimé faire de la peinture, mais j'aurais aimé aussi raconter des histoires. J'aurais bien aimé être le nègre de Victor Hugo.
Ou d'Alexandre Dumas.
Voilà. Donc, si vous voulez, non, je pense que j'aurais aimé déjà raconter des histoires.
La Cinémathèque française, je le disais, va vous consacrer bientôt une rétrospective. Est-ce que vous avez grand plaisir à revoir vos films ?
Écoutez, oui, c'est comme si j'allais voir des membres de ma famille. Donc, si vous voulez, non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut jamais cracher dans la soupe. Jamais, jamais.
C'est un bon mot de la fin. Claude Lelouch, merci beaucoup.
Merci.
Une interview signée Elisabeth Le Quéré, RFI. Il est 18h19 à Fort-de-France.
Le journal des Outre-mer.
Présenté par Alex Léveillé. Bonsoir Alex. En Martinique, le mouvement contre la vie chère se poursuit alors que le leader du RPRAC s'est fait interpeller en début de semaine.
Madame, monsieur, bonsoir. Hier soir, la Martinique a connu des tensions. Trois policiers ont été légèrement blessés. Des incidents suite à l'arrestation de Rodrigue Petitot, leader du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, après son intrusion dans la résidence préfectorale lundi soir. Des événements en lien avec le mouvement contre la vie chère qui dure depuis plusieurs mois maintenant. Et alors même que le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, est actuellement en visite sur l'île. Mais où en est la mise en œuvre du protocole d'objectifs et des moyens contre la vie chère signé il y a quelques jours? Xavier Chevalier, de Martinique la Première.
Le protocole d'accord pour lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre dernier, sera bien appliqué dès le 1er janvier prochain. C'est ce qui ressort de cet échange entre le ministre et les différents acteurs qui ont pris part aux discussions. Sébastien Dair, secrétaire général du groupe SAFO, membre de la grande distribution.
Monsieur le ministre a réitéré l'engagement de l'État sur la compensation des frais d'approche, qui est la principale composante du dispositif que nous avons donc signé le 16 octobre. C'est la première fois effectivement que les Outre-mer pourront bénéficier d'un tel dispositif, ce qui permet d'arriver à une baisse de 20% des produits de consommation courante. Alors pour rectifier, c'est pas les produits de première nécessité, c'est-à-dire que c'est les produits les plus consommés. Et quand vous avez par exemple une famille de pâtes, vous aurez la pâte premier prix, la pâte qualité. Donc c'est toute la famille de pâtes par exemple qui bénéficiera de ce dispositif.
Les échanges ont été clairs et constructifs, se félicite François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer.
Il y a eu un accord qui est intervenu. Le travail qui a été fait est un travail considérable, extrêmement compliqué en réalité techniquement. Les engagements permettent de réduire quasiment de 50% l'écart sur ces produits-là entre l'Hexagone et le territoire martiniquais. On le verra sur les étiquettes et la vie du quotidien va être un peu changée.
François-Noël Buffet poursuit son séjour en Martinique. Le ministre quittera notre île dans deux jours, jeudi 14 novembre.
Xavier Chevalier de Martinique la Première, et on continue à parler de ce problème de la vie chère. Comme tous les territoires en Outre-mer, la Guyane est aussi concernée. En moyenne, les prix sont plus élevés de 14% en Guyane qu'en France hexagonale. C'est ce qui ressort de l'étude de l'INSEE parue en juillet 2023. L'écart est particulièrement élevé pour l'alimentation puisqu'il frôle les 40%. Une vraie problématique pour ce territoire où 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, Ludmilla Lewis.
En 2022, la Guyane et la Martinique affichent un écart de prix similaire avec la France hexagonale, plus 14%. À titre de comparaison, l'écart est de plus 16% en Guadeloupe et plus 9% à La Réunion. Si un ménage venu de l'Hexagone se rend en Guyane en conservant ses habitudes de consommation, son budget augmente alors de 18%. D'après le rapport de l'INSEE, les écarts de prix entre la Guyane et la France hexagonale se sont d'abord amoindris d'un point entre 2010 et 2015, avant d'augmenter de 2 points entre 2015 et 2022. Ces écarts varient selon les secteurs, plus 39% dans l'alimentaire, plus 35% en ce qui concerne les services de communication, téléphonie et Internet, et plus 17% d'écart de prix pour les dépenses de santé. Pour les loisirs, les Guyanais doivent dépenser 15% de plus que les hexagonaux. Les plus petits écarts de prix concernent le transport et le logement, plus 6% au détriment des porte-monnaies des Guyanais.
Ludmilla Lewis de Guyane la Première. Et c'est une première sur l'île de La Réunion. 16 patients participent à une étude pour vérifier l'efficacité d'une molécule dans le traitement du vitiligo, une maladie de la peau qui se caractérise par une perte progressive de la pigmentation et de l'apparition de taches blanches sur la peau. Cette maladie touche entre 0,5 et 2% de la population, quel que soit le sexe ou la couleur de peau du patient. Bénigne, sur le plan médical, cette anomalie peut conduire à une détresse psychologique sévère. Le docteur Antoine Bertolotti, professeur en dermatologie au CHU de Saint-Pierre.
C'est une piqûre avec une anesthésie locale, on met un petit spaghetti sous la peau et qui est censé diffuser un traitement, un nouveau traitement, pour essayer de faire repigmenter la peau. Les patients vont bénéficier du traitement pendant 5 mois, à raison de toutes les 3 semaines. Et ensuite, pendant 5 mois, on va observer ce qui se passe. Est-ce que la repigmentation qui s'est produite se redépigmente? Ou est-ce que ça se stabilise comme il faut? Comment est-ce que ça se passe? Voilà, en réalité, il y a eu quelques patients pour qui ça a très très bien marché aux États-Unis. Ben, voilà, c'est une chance de pouvoir proposer ça à quelques patients réunionnais.
Le docteur Antoine Bertolotti, professeur en dermatologie au CHU de Saint-Pierre, était au micro de Jacques Payet de Réunion la Première. Et avant de se quitter, cette information avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. Ils ont achevé aujourd'hui une visite de 3 jours en Nouvelle-Calédonie. Une dernière journée marquée par leur rencontre avec le monde économique et une visite du centre pénitentiaire Le Camp Est. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Bonne soirée et merci Alex. Tout de suite, on parle santé.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Présenté par Caroline Paré. On parle aujourd'hui du jeûne intermittent avec le professeur des universités et praticien hospitalier Gabriel Perlmutter.
Professeur Gabriel Perlmutter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à PHP à Clamart en région parisienne. Le jeûne intermittent est-il efficace quand on cherche à perdre du poids?
Alors le jeûne intermittent est efficace sur de nombreux paramètres liés à votre santé. Le poids, la pression artérielle, l'équilibre glycémique, le niveau des lipides, l'inflammation, le vieillissement. Mais c'est pas n'importe quel jeûne, c'est très important de savoir comment on jeûne et comment on mange quand on ne jeûne pas. C'est pas juste le jeûne, ça marche ou ça marche pas, et c'est justement tout l'intérêt du livre que j'ai écrit par rapport aux questions que se posent mes patients, aux fake news qu'on peut voir en particulier beaucoup sur les réseaux sociaux.
Précisément, quelles conditions réunir avant de modifier son rythme alimentaire? Est-ce qu'il y a par exemple des contre-indications?
Alors oui, le jeûne, comme toute pratique médicale peut avoir des contre-indications. Vous ne devez pas jeûner quand vous êtes un enfant en pleine croissance. Vous ne devez pas jeûner quand vous vieillissez après 65 ans, notamment. Vous ne devez pas jeûner quand vous êtes une femme enceinte. Vous ne devez pas jeûner quand vous êtes une femme qui souhaite devenir enceinte ou quand vous allaitez. Il y a par conséquent plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut pas jeûner, c'est pas pour tout le monde. Aussi, par exemple, une personne qui a un diabète de type 1 ou qui a un diabète de type 2, mais avec des médicaments qui font baisser directement le taux de sucre, doit faire attention quand elle jeûne.
Et donc, consultez. Merci, professeur Perlmutter. Le titre de ce livre, « Jeûner en mangeant », publié chez Flammarion. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, on va parler de la pneumonie, première cause infectieuse de mortalité chez l'enfant à l'échelle mondiale. Prévention, prise en charge de cette infection respiratoire aiguë des poumons. C'est à retrouver à 9h10, 1h10, temps universel. Et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'était le Conseil Santé avec Caroline Paré. Merci beaucoup. 24 heures en France, c'est terminé. Merci à Fabrice Viollet à la technique. Merci à Loïc Bussière à la rédaction en chef. Mathis Slimano est aux commandes des journaux de la nuit. Dans un instant, c'est votre édition Afrique Soir. On reviendra sur la campagne qui bat son plein au Sénégal avant les législatives de ce dimanche. Et dans quelques instants, on part à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones grappille 47 points et revient à 43 958, mais l'indice du Nasdaq lâche 51 points et revient à 19 231. Les dernières nouvelles de l'inflation aux États-Unis sont en gros conformes aux anticipations. Elles sont donc relativement bonnes du point de vue des marchés d'actions, mais encore préoccupantes du point de vue du marché obligataire. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis au mois d'octobre grimpe de 0,2%, mais les prix du logement augmentent plus vite, et débarrassés des prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires, l'inflation avance encore de 0,3%. Ce noyau de l'inflation sur 12 mois est encore de 3,3%, et c'est une raison de plus pour la Banque centrale américaine probablement de ne pas accélérer ces baisses de taux directeurs. Alors on voit certes toujours la Fed abaisser le taux des Fed Funds le mois prochain, à l'issue de sa réunion du 18 décembre, mais si la conjoncture reste toujours aussi solide, et compte tenu de la probabilité de baisse d'impôts l'an prochain et d'imposition de surtaxes à l'exportation par la nouvelle administration Trump, la Fed sera tentée d'avancer très prudemment. La conséquence immédiate de ces anticipations, une nouvelle hausse des rendements obligataires, le rendement du T-Bond grimpe ainsi à 4,44, et à nouveau une appréciation du dollar, l'euro s'effondre à 1,0563. Le baril américain de pétrole est pratiquement inchangé à un peu plus de 68 dollars. L'indice Dow Jones aujourd'hui avance de 0,1%, mais pénalisé par des dégagements affectant le secteur des semi-conducteurs, le Nasdaq cède 0,3%.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité ? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Rendez-vous tous les vendredis pour éclairer le travail de la rédaction et des équipes des magazines de RFI à l'antenne comme sur le numérique. Nous répondons à vos questions pour vous expliquer les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.